Bonsoir, un court répit dans le transport ferroviaire entre deux grèves alors que les négociations se poursuivent. Bon, sans déboucher sur quoi que ce soit pour l'instant. Alors, au-delà de ce conflit, on va essayer de savoir, de comprendre où va la SNCF, hein, justement, quels sont ses atouts et ce qui la leste aussi entre un État actionnaire schizophrène, une dette qui se creuse, une citadelle syndicaliste et puis un système méga hiérarchisé. Oui, franchement, l'entreprise vieille de 80 ans n'apparaît pas comme un modèle de simplicité. Alors, est-ce qu'il faut s'y résigner ou alors la SNCF va-t-elle enfin bouger? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé, à la radio, avec un homme qui nous consacre une heure, alors que, évidemment, son entreprise est en pleine tension. C'est Mathias Vichra, le directeur général adjoint du groupe SNCF, le numéro 2 de la SNCF, pour simplifier.
Non, pas numéro 2.
Alors, vous êtes numéro combien?
Il n'y a pas de numéro.
Il n'y a pas de numéro.
Directeur général adjoint de la
SNCF. Directeur général adjoint du groupe SNCF. Emmanuel Le Chip, toujours premier, hein, éditorialiste économique à BFM Business, avec nous également. Philippe Mangeard, grand spécialiste du ferroviaire, président de l'agence de notation de transport, Cablou, et puis Pascal Perry qui avait sévi avec un SNCF, un scandale français, un livre à succès, toujours d'actualité. Il est économiste, directeur de PNC Économique. Alors, deux jours de grève suivis, hein, plutôt, donc hier et avant-hier, avant la suite. Mathias Vichra, vous êtes arrivé il y a un petit peu plus d'un an comme DGA en charge du projet d'entreprise, en charge de la communication. Je cite Louis Gallois, au moment de son départ de la SNCF en 2006, qui nous dit « 10 ans passés à la tête de cette société, cela vous vaccine contre l'optimisme. » Et un an passé à la SNCF.
Alors, je suis très optimiste sur cette très belle entreprise. Vous avez dit au moment de lancer le sujet que cette entreprise allait-elle enfin changer. En fait, cette entreprise a beaucoup changé déjà. Je donne juste deux exemples. En 10 ans, la part du chiffre d'affaires à l'international est passée de 10 à 33%. Et par ailleurs, la SNCF, qui était principalement concentrée sur le chemin de fer, est allée sur toutes les mobilités. Aujourd'hui, la SNCF opère à la fois des VTC, de l'autopartage, du fret.
Ça fait
évidemment
partie de ses atouts.
Voilà, ouais. Ça fait partie de ses atouts. Donc, elle a su quand même se transformer. Il faut évidemment aller au-delà, et on va en parler à propos de la réforme, mais c'est quand même une société qui s'est transformée, et on ne peut pas laisser dire que la SNCF n'a pas bougé depuis 10 ans.
Non, c'est la question, c'est la SNCF va-t-elle enfin bouger? Pas se bouger, mais bouger, parce que, bah oui, elle est quand même coincée entre pas mal de choses dont elle ne dépend pas forcément exclusivement. Il y a évidemment des tares liées exclusivement à la SNCF, mais évidemment, elle est dans un contexte, bah oui, il y a l'État qui est actionnaire, qui est pas toujours très très clair également. Gouverner la SNCF, alors même si vous n'êtes pas numéro 2, numéro 2, terre, 3, etc., c'est simple vraiment de gouverner la SNCF quand même?
Bah, je peux vous dire que pour revenir sur la phrase de Louis Gallois, en tout cas c'est une tâche qui est très importante, mais que je trouve très intéressante et très excitante. La SNCF, ça parle à tout le monde. La SNCF est au cœur de la vie des gens. Quand vous allez dans un dîner, tout le monde a un avis sur la SNCF, tout le monde est d'une certaine manière PDG de la SNCF. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à la fois des enjeux économiques très forts, des enjeux sociétaux, des enjeux politiques. Donc c'est une entreprise qui agrège un peu tous ces enjeux-là et qui, du coup, quand elle se réforme, c'est plus compliqué que dans une autre entreprise parce que vous avez tous ces paramètres-là. Mais on pourra en reparler de manière un peu posée, puisqu'on a un petit peu de temps. Je pense que la réforme qui est en cours ne doit pas être limitée à la question de l'extinction du statut, mais doit aller bien au-delà, puisqu'il y a à la fois, évidemment, la question du désendettement, il y a la question du changement de forme juridique de l'entreprise, il y a la question des investissements supplémentaires, il y a la question de la concurrence, donc c'est une réforme globale.
Bien sûr, et on va en reparler. Philippe Mangeard, en effet, c'est pas une entreprise comme les autres, bien sûr, la SNCF. Hein. On va reparler de la grève dans un instant. Bon, alors évidemment, tout n'est pas parfait dans le service, bien sûr, on l'a souvent dit, et les voyageurs, et nous-mêmes, donc, nous en rendons compte, les méga pannes informatiques, par exemple, des incidents récurrents. Quelles sont les forces et les faiblesses de la SNCF? Qu'est-ce qui se passe à la SNCF? C'est quoi votre game?
Vous avez cité Louis Gallois, alors ça me fait penser à une autre citation de Louis Gallois, qui avait commandé dans les années 2000 un audit sur l'organisation, parce que le problème de la SNCF, c'est qu'un problème d'organisation. Louis Gallois avait commandé un rapport qui doit faire au moins 300 pages, mais le résumé tenait en une seule phrase. beaucoup de bergers et pas beaucoup de moutons. Le mouton étant l'exécutant dans le schéma de monsieur Gallois. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que l'organisation SNCF est tellement hiérarchisée de haut en bas. Il y a tellement de chefs, de chefs, de chefs. Vous voyez, monsieur ne sait même pas s'il est numéro 2 ou numéro 3. Donc vous voyez, c'est quand même compliqué.
Il est modeste peut-être.
Il est modeste peut-être. Non mais, parce que de manière générale, l'organisation de la SNCF est tellement serrée pour une raison historique qui s'appelle la sécurité ferroviaire. On ne peut pas prendre de risques avec des gens qui sont dans un train. Donc la sécurité, c'est terrible. Un conducteur de train travaille 35 heures comme tout le monde, mais effectivement, il en fait 15, peut-être 20 les bonnes semaines. Pourquoi? Parce que il est contraint à tout un environnement de sécurité, de surveillance.
C'est normal en même temps.
C'est tout à fait normal. Donc, mais cette organisation qui a ce travers sécuritaire est devenue hyper sécuritaire. Ce qui veut dire que l'homme du terrain, à contrario de ce qui s'est passé à la Poste, à la RATP, dans des grandes organisations qui ont su muter, n'a absolument pas le bénéfice de ce qu'on appelle la pyramide inversée. Aujourd'hui, le management, c'est un management de terrain qui remonte vers une organisation générale qui donne les moyens et la stratégie nécessaires pour la cohésion du groupe. À la SNCF, c'est le contraire. Vous avez 40 personnes à Paris qui dirigent 140 000 personnes sur le terrain, grosso modo. Ce qui veut dire que le territoire de liberté d'un cheminot de base est extrêmement ridicule. Ce qui veut dire que il faut qu'il s'accroche à ce qui est la contrepartie de ses contraintes, c'est le statut, c'est l'environnement, c'est plein de choses qui font qu'il se battra comme un lion jusqu'au bout là-dessus. Mais d'une manière générale, la réflexion à mener pour la SNCF, ça m'étonne que le gouvernement l'ait pas menée. On a une urgence, dans 2-3 ans, il y a la concurrence, et c'est pas la réduction de la dette, c'est pas le changement de statut des cheminots, c'est pas le changement de statut de l'entreprise qui va changer quelque chose. La seule chose qui peut sauver la SNCF dans un combat concurrentiel dans 2 ans, c'est rapidement un changement d'organisation. Rapidement. Et c'est possible. Il suffit simplement de regarder les règles historiques de travail, les règles historiques de sécurité. Il s'agit aussi de tranquilliser les gens en imaginant une nouvelle convention collective ferroviaire qui s'appliquerait ainsi aussi à toutes les entreprises ferroviaires privées concurrentes. Parce que si vous jouez à jeu égal, la SNCF sera meilleure. Si vous jouez avec des boulets pour la SNCF va être démolie. Donc il faut enlever les boulets de la SNCF. Et tous les métiers que fait la SNCF aujourd'hui sont très bien, tous ces nouveaux métiers. Mais ils s'adressent uniquement aux clients, aux passagers. Mais pour les troupes, on n'a encore rien fait depuis 10 ou 15 ans. Voilà ma vision.
Alors, Pascal Perry, puis Mathias Vichra, bien sûr, qui répond.
La première des faiblesses, pour moi, c'est la faiblesse de l'actionnaire. L'actionnaire a été défaillant pendant très longtemps. C'est une activité particulière qui mobilise beaucoup de capital. Il faut travailler sur le réseau. Il faut l'améliorer, le régénérer, tenir compte de l'expression de la demande. Et la demande, c'est 80% des trains roule en Île-de-France. Il y a 15 000 trains jour, il y en a 80% qui roulent en Île-de-France, c'est là que se situe la demande. Donc, sortir d'une politique de l'offre, comme on se le disait tout à l'heure, pour aller vers une politique de la demande, c'est par exemple, de façon assez courageuse, dire que les 30% du réseau qui transportent 2% des passagers n'ont plus de raison d'être dans la France de 2018. Ce réseau, il a été dessiné dans une France où 80% des gens vivaient à la campagne. L'ambition de départ, c'était mettre une gare à moins de 10 minutes de chaque Français. Est-ce qu'on garde les gares aux endroits où il n'y a plus de Français? La réponse, c'est non. Donc, c'est la vision de l'actionnaire défaillant. C'est peut-être aussi à l'intérieur de l'entreprise, le dictionnaire des métiers qu'il faudrait revoir. Il n'a pas été revu depuis très longtemps. Et pourtant, paradoxalement, parce qu'il y a aussi des points forts, il y a l'ingénierie, la capacité à organiser du transport multimodal, la capacité à digitaliser l'offre. Aujourd'hui, la SNCF, c'est une offre bicanale, c'est une offre online, offline, et la capacité aussi à produire de l'innovation commerciale et tarifaire. La SNCF fait pratiquement mieux du yield management, elle utilise mieux les techniques du yield management que l'aérien, et elle a inventé un service. Franchement, j'ai été bluffé. Le service Ouigo, qui met le train à la disposition de tout le monde, y compris des plus modestes. Elle transporte 5 millions de personnes par jour. Par an.
5 millions de personnes par jour.
Ouais. 5 millions, oui. Mais
Sur Ouigo, c'est entre 5 et 7 de mémoire par an. Bon, c'est une véritable innovation commerciale. Et dernier élément. Ouigo,
pour simplifier, c'est les TGV et low cost qui partent de Montparnasse, qui vont.
C'est une offre simplifiée.
Notamment.
C'est une offre simplifiée qui s'adresse à un public qui n'a pas de contraintes de temps, moins de contraintes de réservation et de confort, mais qui exprime un besoin de mobilité. Et puis dernier élément. Je suis un grand voyageur de la SNCF. Je ne trouve pas que le service soit dégradé. Quand on dit que le service est de mauvaise qualité, pour avoir voyagé en Italie, en Allemagne, en Angleterre, la SNCF est plutôt un bon opérateur ferroviaire. Alors, évidemment, on est très français, un peu cabochard, cabotin. Quand il y a un train qui arrive en retard, c'est immédiatement un scandale d'État. Il faudrait faire intervenir le président de la République. Mais enfin, soyons sérieux. On voyage dans des conditions tarifaires, dans des conditions de confort, de fiabilité, de sécurité et de ponctualité qui sont satisfaisante.
Bon, alors, ouais, Manuel, pourquoi vous faites la tête?
Ouais, je alors d'abord, je trouve qu'effectivement, il faut, on sous-estime les changements qui se sont produits depuis 10 ans. Prenez ce qu'a été la révolution du low cost, prenez la révolution de l'internationalisation, prenez ce que j'appelle moi la révolution de la métropolisation, c'est-à-dire la fin du tout TGV. C'est peut-être ce qu'on retiendra par-dessus tout du bilan de Guillaume Pépi, de cette direction
qui
met fin à l'obsession TGV. La digitalisation et effectivement l'invention de solutions de mobilité plutôt que de la vente de billets de train. Et ça, je vous laisse en parler, mais vous verrez l'offre qui se prépare avec laquelle vous allez pouvoir bientôt voyager, je dirais quasiment dans toute la France, avec la possibilité de prendre le train moi quand vous arrivez à Bordeaux, etc., avec juste votre smartphone, etc., ça va être très bien. N'oublions pas pourtant quand même que au-delà de ça, la SNCF comme EDF, c'est quand même le pire de ce que produit la gouvernance à la française. Une entreprise dans laquelle les grands corps d'ingénieurs et les grands syndicats ont quand même fait pendant des années front commun pour défendre des intérêts corporatistes. Tout ça sous la houlette d'un actionnaire défaillant qui sont en gros des dirigeants politiques qui étaient prêts à tout et qui ne donnaient qu'une seule instruction au président de la SNCF, la paix sociale, et qui n'étaient obsédés que par l'idée d'avoir une gare TGV dans leur ville, puisque je vous rappelle que le TGV dessert aujourd'hui 230 gares. D'ailleurs, c'est simple, hein, quand vous regardez la carte du TGV, ça vous reflète très fidèlement la carte des influences politiques de l'époque. Donc voilà, ça a été ça. Et donc aujourd'hui, il y a eu effectivement beaucoup d'innovations, il en reste une, c'est effectivement sur l'organisation interne de l'entreprise. C'est pas normal, par exemple, que vous ayez besoin de 2 conducteurs pour un TGV, c'est-à-dire un qui va emmener le TGV du garage jusqu'au quai de la gare et l'autre qui va aller de la gare pour faire le trajet. Ça devrait quand même être le même qui puisse le faire. C'est pas normal que vous ayez cette ultra spécialisation des compétences, c'est-à-dire qu'un contrôleur dans un train TGV, vous pouvez pas lui dire que la prise de courant sur laquelle vous branchez votre smartphone est en panne, parce que le contrôleur, il est pas capable de remonter le commuteur, pour etc. Donc tout ça, ça va être, pour moi, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va, pour moi, c'est la porte de sortie au blocage actuel. C'est-à-dire toutes ces possibilités qu'on va ouvrir aux salariés. Parce qu'en fait, moi, je sens que les salariés de la SNCF aujourd'hui, quand ils défendent leur statut, mais derrière, ils ont une crainte. C'est que finalement, on leur dise, ok, bon bah vous êtes les dinosaures du statut, vous n'aurez plus de promotion, vous n'aurez plus de gratification, etc. Et donc je pense que si on leur propose sur le plan professionnel des évolutions intéressantes, moi je pense que le corps social de la SNCF est tout à fait prêt à avoir un boulot plus intéressant et plus mobile, etc. Et donc je pense qu'il y a des portes de sortie à la crise actuelle, mais n'oublions pas d'où vient la SNCF et ne sous-estimons pas non plus effectivement les changements qui se sont produits depuis 10 ans.
Bon, bah il y a eu du bon et du mauvais finalement dans ce qu'on a entendu.
Mais c'est l'intérêt d'une émission comme la vôtre,
oui.
C'est de pouvoir prendre du temps.
Bien sûr.
Et le temps permet d'apporter de la nuance et non pas de la caricature.
C'est ça. Comme on entend beaucoup.
Il y a trop de caricatures. Quand on dit que la prime charbon continue à exister alors qu'elle a été supprimée dans les années 70, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de tracts, beaucoup de tweets qui rappellent ça. Il faut que ça cesse. Donc c'est bien d'avoir un point nuancé et les propos des uns et des autres le montrent.
Critique justifiée ou pas de ce que vous avez entendu?
Alors, j'y viens. Effectivement, il y a eu toute une part de transformation qui est liée au digital. Ça, c'est important. On a le premier site de e-commerce en France, avec Oui SNCF, qui était voyagesncf.com, et qui fait près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est un élément de transformation important. Deuxièmement,
on se rend compte, c'est quel pourcentage du chiffre d'affaires commercial
de l'ensemble de la SNCF? La SNCF fait 33 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc ça représente un sixième à peu près du chiffre d'affaires. Deuxième chose, nous sommes l'entreprise de France qui a le plus ouvert ses données. En matière d'open data, nous sommes la première boîte française. C'est quand même intéressant quand on voit cette image parfois caricaturale d'une SNCF vieillissante, renfrognée, etc. On ouvre la plupart de nos données pour notamment les applis, les startups et aussi dans une logique de transparence. Par ailleurs, on a pris le virage du low cost, ça a été rappelé. C'est un point fondamental. Regardez d'autres boîtes que je ne citerai pas qui ont pris un virage tardif du low cost.
Nous, dites-le, Air France.
Nous, on a pris le virage du low cost avec Ouigo, qui représentera 25% de la grande vitesse en 2020, avant l'arrivée de la concurrence. C'est très important. Si on veut être compétitif avec l'arrivée de la concurrence, vaut mieux avoir du low cost. Après, évidemment, il y a des choses à revoir, notamment en matière d'organisation. Et c'est là où je rejoins ce point-là, l'organisation.
Ce que disait Philippe Mangin.
Voilà. Mais ce que disait Philippe, par ailleurs, là où j'ai un point de désaccord, c'est que la question du statut juridique de l'entreprise, c'est clé. Pourquoi ? Passer de trois EPIC, établissements publics, industriels et commerciaux, à une société anonyme à capitaux incessibles. Un, c'est pas de la privatisation, à capitaux incessibles. Mmh. Il faudrait une loi pour une entrée privée au capital. Deux, ce qui est très intéressant dans l'assainissement futur de l'entreprise, et c'est pour ça que je pense que c'est clé, c'est que vous pouvez plus vous endetter comme avant. Donc ça, c'est quand même un point qui est fondamental. Dernier point que vous avez cité notamment sur la question de la polyvalence des métiers, c'est clé, c'est la partie pacte d'entreprise de la réforme, donc qui concerne la direction de l'entreprise et qui n'est pas dans le pacte législatif, c'est le sujet de la polyvalence. Il faut que demain, les agents puissent faire plusieurs types de métiers. Quand vous êtes agent d'escale et que vous êtes à l'embarquement, vous pouvez aussi faire du contrôle, voire de la vente, en cas de besoin. Et dernier point sur l'organisation.
Et on voit, pardon, j'ouvre une parenthèse, puisque vous parliez, vous faisiez une allusion à Air France. Air France qui a créé sa nouvelle compagnie June, avec du PNC à bord, qui va faire un petit peu de ménage, ce que les hôtesses et stewards d'Air France, Air France, le vrai Air France, n'acceptent pas de faire, par exemple.
La polyvalence, c'est clé, et ça, c'est vraiment un gain client immédiat. Le dernier point, et là on se rejoint avec les organisations syndicales. Quand vous relisez le rapport de la CGT ou le rapport de l'UNSA, il pointe un sujet qui est la question de l'unité du groupe. Le groupe s'est tellement développé en 10 ans qu'à un moment, il y a une question de segmentation et des questions de l'unité du groupe qui se posent. Le gouvernement a fait le même constat, la direction de la SNCF aussi, Patrick Jeantet et Guillaume Pépi, et donc c'est un point important de la réforme qui est la question de l'unification du groupe. Un peu sur le modèle allemand, où vous avez une holding et avec après une organisation qui est plus unifiée qu'en France. Parce qu'en France, on constate avec la SNCF qu'il y a des sujets de segmentation. Donc il y a aussi des points de convergence.
On reviendrait juste à une organisation qui était l'ancienne organisation.
Celle de 97.
Pas totalement. Parce qu'il peut y avoir des logiques de filialisation de certaines activités. Mmh. Donc c'est pas totalement la même logique que 97. Mais c'est quand même important de voir que, y compris sur le diagnostic, entre syndicats, gouvernement et direction, il peut y avoir des points communs.
Pascal?
Alors,
Pascal,
un des poisons, c'est évidemment la question de la dette, parce que d'abord, elle pèse dans les comptes de l'entreprise.
On va la rappeler, 50 milliards d'euros.
Alors, il y a une partie
avec
de la dette.
Avec 1,4 milliard de frais chaque année.
Ouais. Oui, c'est ça, de frais financiers. Ouais. Effectivement, la dette, la structure de la dette, c'est pour partie de la productivité qui est perdue, qu'il aurait fallu gagner, donc on a intégré finalement à la dette.
Comment est-ce qu'on en arrive?
L'absence de polyvalence dans certains cas, puis c'est aussi les surinvestissements. Peut-être qu'on a surinvesti. Il y a eu une guerre en France, il faut le dire, qui était une guerre politique, pas vraiment économique, entre l'air et le fer. Un courant dans la société française qui disait en substance que le transport aérien était nécessairement vicieux et le transport ferroviaire nécessairement vertueux. Je crois qu'il faut la dépasser, cette logique, parce que pour un géographe comme pour un économiste, chaque distance a sa modalité de transport idéale, si vous voulez, pertinente. Hein. Et au-delà du 800 km, au-delà de 900 km, l'avion est souvent plus efficace que le train, y compris en termes de coût de production. Mais si on va vers la formule qu'évoque Monsieur Vichra, qui est celle d'une société nationale à capitaux non cessibles, c'est une hypothèse dans laquelle l'entreprise pourra s'endetter, mais s'endetter pour acheter de la croissance. La règle, c'est que elle pourra s'endetter à hauteur de 5 ou 6 fois la marge opérationnelle. C'est-à-dire, si on prenait l'hypothèse d'aujourd'hui, la marge opérationnelle est relativement élevée, elle est à 1,8 milliard d'euros, quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est une entreprise qui conserverait une capacité d'investissement de 10 milliards d'euros, ce qui est considérable aujourd'hui. Donc, dire que le changement de formule juridique sera un frein à l'investissement est une contre-vérité économique et financière évidente.
La question, est-ce que l'État peut reprendre la dette
Il doit reprendre la dette.
Il doit, peut-être, mais est-ce qu'il peut, Emmanuel, vous l'économiste, 2 points de PIB de dette publique. Ce qu'a dit Édouard Philippe, c'était sur Radio France, sur France Inter ce matin, il se dit ouvert à la reprise d'une partie de la dette SNCF par l'État, mais avec en contrepartie des engagements extrêmement clairs, extrêmement fermes et qui transforment le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Chantage a répondu tout de suite.
Le problème, c'est qu'Edouard Philippe, dès l'instant où il dit que l'État reprendra la dette, c'est comme si c'était fait. Donc, il peut pas le dire maintenant. Mais pourquoi il y aura pas d'autre choix? D'abord parce que, c'est un peu comme la Grèce, hein, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un moment où si vous n'allégez pas votre fardeau, vous n'avez aucune possibilité de vous redéployer. Ça, c'est la raison économique. On allège la dette et effectivement, l'entreprise, sur des nouvelles bases, repart avec beaucoup moins de poids sur les épaules. Et puis, il y a une autre dimension qui est une dimension beaucoup plus psychologique et politique. C'est que reprendre la dette pour l'État, c'est quelque part reconnaître et assumer le poids de ses erreurs passées. Ouais. C'est-à-dire que pour les cheminots, qui sont pas forcément tous des cadors en économie et qui comprennent peut-être pour qui la dette, ça peut paraître abstrait, le symbole que l'État reprenne cette dette qu'il a creusée, parce qu'après tout, c'est quand même la seule entreprise, la SNCF, à qui on a demandé de payer les infrastructures sur lesquelles elle roule. On n'a pas demandé ça à l'aéronautique, on n'a pas demandé ça à la route.
À la route.
Donc, je pense que symboliquement, l'idée que quelque part, l'État reconnaisse ses erreurs, je pense que pour les cheminots, ça voudrait dire beaucoup.
Juste, je redonne la parole à Mathias Vichras dans un instant, mais franchement...
Et on parle de 35 milliards hein, pour aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a les 35, mais les 50, ça vient d'où, c'est quoi?
Ah non, mais je veux dire, les chiffres qui circulent, entre guillemets, dans les milieux autorisés, sur combien l'État reprendrait potentiellement,
vous savez,
aujourd'hui,
vous
les chiffres...
Non, en fait, il y a deux séries de dettes. Il y a une dette de SNCF Réseau, oui, l'infrastructure, qui est de 46 milliards, et il y a une dette de SNCF Mobilité, donc l'opérateur, qui est de 8 milliards.
Juste, Philippe Mangeur, juste sur l'État, il a raison ou pas, Emmanuel Le Chypre? On a affaire à un État actionnaire schizophrène, un État à la manœuvre qui tense quand il y a des incidents, mais l'État actionnaire, il n'est pas exempt de tout reproche. La Cour des comptes l'avait pointé, justement, sur sa stratégie peu claire, peu cohérente.
La SNCF est une entreprise industrielle, donc elle doit se comporter comme telle. Aujourd'hui, constater de toutes parts, la productivité de la SNCF l'amène à des coûts de production 30% supérieurs à tout ce qui existe aujourd'hui. Dans certains pays, je nomme l'Angleterre, je nomme l'Allemagne, dans lequel on a changé le modèle d'organisation de l'entreprise ferroviaire, on a, comme par hasard, diminué de 30% les coûts de production. Donc, si demain, moi je ne suis pas du tout pour le retour en 97 avec un seul établissement qui dirige tout, je pense que le réseau a sa vie, que l'exploitant a sa vie, bon, c'est un débat...
Bah, surtout dans un monde où la concurrence fait que...
Le réseau et le monopole d'État, c'est la propriété de l'État, on pourrait même passer le réseau en société anonyme à capitaux public pour éviter justement que ce réseau continue à s'endetter comme un fou, parce que tant qu'il n'y a pas de responsable, on peut s'endetter comme on veut. La société SNCF Mobilité étant devenue une société anonyme à non cessible, etc., pour donner toute garantie, pourrait trouver alors un modèle qui, avec ses 30% de productivité, lui permettrait d'aller bien au-delà des 10 milliards de capacité d'investissement par an, lui permettrait de rayonner encore plus à l'international, parce qu'il faut quand même pas oublier que le chemin de fer français, c'est quand même le plus beau chemin de fer du monde. C'est les plus beaux ingénieurs, c'est le plus grand savoir-faire. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'on s'occupe trop des voyageurs...
La Deutsche Bahn. Avec la...
Non.
Emmanuel Le Chypre. Les
Japonais sont bons dans la grande vitesse.
Alstom, aujourd'hui, ils sont mauvais.
Enfin, le ferroviaire, ce n'est pas que la grande vitesse.
Non, mais le matériel, attends, excuse-moi, le matériel Alstom, qui est quand même le matériel utilisé en grande partie par les SNCF. Attends, le TGV, c'est pas le summum de la technologie en matière de...
Le ferroviaire, c'est pas les matériels. Le ferroviaire, c'est une infrastructure, c'est un système. C'est un système industriel complet. Signalisation, organisation...
Sauf que si on prend les retards, etc., machin et tout, la France est pas...
Alors raison de plus de mettre bouchée d'eau pour attraper,
sur la dette. Je reviens sur la dette, simplement. Mathias Vichra, donc cette question de la dette, c'est un atout pour pousser la réforme. Qu'est-ce que vous feriez si l'État, justement, reprend une partie de la dette, 35 sur 50 milliards, par exemple, si on dit ça?
Non, mais la question est importante. En réalité, les différents aspects de la réforme sont liés les uns par rapport aux autres. Pourquoi la fin du statut? Parce que la fin du statut, ça correspond à une mise en équité au moment de l'arrivée de la concurrence. Vous embauchez des gens qui sont aux mêmes conditions que les autres opérateurs. Pourquoi est-ce qu'on parle du changement du statut juridique de l'entreprise, passer des PIC à SA? Pour pouvoir avoir une sorte d'assainissement en vue de ne pas s'endetter. Donc la question de la reprise de la dette est liée aussi à ce sujet. Donc tout est lié. La seule question, et le gouvernement l'a indiqué à plusieurs reprises, soit Édouard Philippe ou Elisabeth Borne, La seule question, c'est la question du calendrier. C'est-à-dire quand, la ministre l'a rappelé encore récemment, c'est dans le quinquennat. Et la question, c'est après, est-ce que ce sera par phase ou est-ce que ce sera de manière complète et directe? Ça, c'est un sujet qui doit être tranché. Mais il faut bien comprendre que cette réforme, c'est un tout global et cohérent. Il ne faut pas s'arrêter sur un sujet qui est l'extinction du statut, qui est un sujet reprise de dette. En réalité, si vous prenez les différents aspects de cette réforme, c'est un tout cohérent.
Les chemins de fer britanniques qui sont méga endettés aussi, ça pose autant de problèmes ou pas?
Mais alors, sur la comparaison, pardon, hein, faut pas parler du chemin de fer britannique. Le chemin de fer britannique, c'est une privatisation qui n'a rien à voir avec le sujet de la concurrence. Donc, simplement, puisqu'on se dit ici qu'on parle de manière sérieuse, ne comparons pas la situation du projet de réforme à celui de la situation en Angleterre. On peut comparer, puisqu'il va y avoir la concurrence, à l'Allemagne, à la Suède
surtout,
en partie à l'Italie, où on voit les gains pour le client de la mise en concurrence. Ces gains, ils ont été rappelés, c'est 20% de trains en plus sur 15 ans, c'est des coûts qui sont diminués, un rapport qualité-prix qui s'améliore de 15%, et c'est des clients en plus.
Alors, on a fait une émission complète avec le Transdev, avec Trade Italia, il y a 10 jours à peu près. Un mot, parce que je voudrais qu'on enchaîne juste après.
Alors, là, pour le coup, objectivement, dans le service après-vente de la réforme, je trouve que la pédagogie est mal faite.
Alors, attendez, on va en reparler dans un instant. D'accord. Voilà, sur l'état des négociations, on verra ça dans un instant. Pour l'instant, on parle de blocage. J'avais dit un mot, Emmanuel. Toujours plus vite que la musique.
Que le train.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors oui, on évoque évidemment le dossier chaud du moment, la SNCF, mais d'un point de vue de l'entreprise également, on a vu un certain nombre d'atouts, on a vu un certain nombre de lourdeurs, et comment justement on pourrait revenir sur ces lourdeurs. Alors évidemment, il y a cette grève, hein, voilà, on est un peu dans une entre parenthèses là, en attendant la prochaine grève, donc qui va démarrer samedi soir pour 2 jours, dimanche et lundi. Alors au cœur de cette réforme, voulue notamment par le président de la République, il y a aussi cette volonté de bien préparer la SNCF donc à l'ouverture de la concurrence d'ici 2 ans, et on en parlait tout de suite avec Mathias Vichra, donc le directeur général adjoint de la SNCF. Alors, les discussions sont poursuivies ce jeudi, autour de quoi? Bon, la future gouvernance du groupe public, et puis la reprise par l'État de la dette du système ferroviaire. Apparemment, constat de blocage, ces représentants syndicaux, donc de l'UNSA, de la CGT, de la CFDT, donc à la sortie des discussions, c'était aujourd'hui.
Je considère que si on met la SNCF à porte-à-faux, c'est les cheminots qu'on met à porte-à-faux.
Nous craignons que les usagers et les difficultés qu'ont vécu les usagers ces 2 derniers jours n'aient pas vraiment eu d'impact sur l'attitude du gouvernement qui durcit encore le ton.
Mais je crois que le gouvernement cherche l'affrontement et n'a pas envie. Enfin, il se cherche lui-même.
Voilà, donc CFDT, CGT, et puis pour démarrer, c'était l'UNSA. Pascal Perry, manifestement des blocages. Hein. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, justement? Ce matin, sur leséchos.fr, dans le cercle des échos, hein, vous avez signé une tribune. Le coupable, Emmanuel Macron, son gouvernement, qui ne font pas assez de pédagogie?
Je dis pas ça.
Non,
je dis d'abord,
c'est moi qui interprète.
Oui, je dis que la réforme, elle est indispensable.
J'ai pas dit le contraire.
Ça, c'est le premier point. Mais elle est indispensable pour de bonnes raisons.
Blocage. Pourquoi blocage?
Bah, peut-être parce qu'il y a un défaut d'explication. Et peut-être aussi, il faut le dire très clairement, parce qu'il y a eu des postures ou des formules un peu maladroites. Je pense notamment à la sortie au salon de l'agriculture. Le président de la République qui s'adresse à un agriculteur, un cheminot l'interpelle et il lui répond « Écoutez, votre retraite est très confortable si je la compare à celle des agriculteurs. » Dans ce domaine, comparaison n'est pas raison. Pour rappeler un truc simple, la retraite, c'est des cotisations. Plus on cotise, plus la pension, hein, le taux de reversion est élevé. Donc, il y a des comparaisons qu'il faut pas faire qui sont
un peu vexatoires. L'État cotise pour les retraites à la SNCF.
3 milliards d'euros par an. Oui, 3 milliards d'euros par an, c'est vrai.
Alors, erreur de langage.
Oui, peut-être que Madame Borne, qui dit aussi dans le Parisien ce week-end que la grève est inexplicable, commet une maladresse. J'observe aussi que les parlementaires de la jeune majorité sont eux-mêmes assez jeunes. J'allais dire immature. Peut-être qu'ils connaissent pas toujours parfaitement tous les dossiers.
Et c'est pour ça que t'as vu, on leur a distribué un très beau dossier.
Un très beau dossier.
Avec des éléments de langage.
Le calendrier, est-ce que c'était le bon?
Oui, alors le calendrier.
On parlait de la dette tout à l'heure. Est-ce qu'il aurait fallu commencer par
mon point de vue,
la dette et puis ensuite parler de la réforme
Mon point de vue, c'est qu'il fallait d'abord solder le statut. Enfin, il fallait évoquer le statut de la dette. Il fallait la solder. Il fallait que l'État, actionnaire. Alors, rappelons ce que c'est qu'un actionnaire quand même. L'actionnaire, il a des engagements. Que l'actionnaire tienne ses engagements. Et ensuite, je crois que ça aurait été beaucoup plus simple de demander des efforts d'adaptation à l'entreprise, peut-être avec là aussi une pédagogie du mieux et pas une pédagogie du moins. Mais il y a un élément, Fabrice, vous savez, tous les pouvoirs se sont heurtés aux grèves dans le secteur des transports. Les transports, c'est pas la grande distribution, c'est un secteur stratégique, c'est le système nerveux de l'économie. Quand les transports s'arrêtent, le pays s'arrête, l'économie s'arrête.
Oui, mais Pascal, aussi, il y a une grosse différence aujourd'hui, et parmi les éléments qui laissent penser que le rapport de force est quand même favorable à la mise en place de la réforme, c'est que sur les 30 dernières années, on avait souvent un cas de figure dans lequel on avait un Premier ministre très allant pour faire des réformes et qui a été lâché par son président de la République. Oui, oui. Alors, ça a été le cas avec Jacques Chirac plusieurs fois, etc. François Hollande aussi.
Ah bah, François Hollande, oui.
Alors que là, l'impulsion, elle vient quand même de l'Élysée. Et ça, ça change quand même.
Mais ça change pas le pays.
Ça change pas le pays, mais ça change la volonté politique.
Ça change l'espoir du
nouveau politique.
Ouais, cette négociation est bizarre. Il n'y a pas de donnant-donnant. Moi, j'ai pas encore vu une seule proposition des cheminots à part dire non. Premièrement. Deuxièmement, très curieux l'État. Il a quatre mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle à annoncer. Il a la bonne nouvelle, je vais prendre la dette. Il a quatre mauvaises nouvelles, les petites lignes, le statut du cheminot, le statut de l'établissement public et la concurrence qui arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur les trois mauvaises nouvelles. Donc, d'une part, vous avez un État qui se concentre sur ce qui est le plus douloureux. Et de l'autre côté, des cheminots qui, à part dire non, proposent rien. Et au milieu, de quoi on parle depuis une heure? On parle de l'organisation. Et qu'est-ce que c'est qu'une organisation dans l'usure d'entreprise? C'est codé par une convention collective. J'en ai déjà parlé en début de l'émission, mais cette convention collective ferroviaire, si elle était opposable au tiers, c'est-à-dire acceptée par la SNCF, parce qu'elle serait aussi imposée aux concurrents, eh bien, on aurait un monde sain. On aurait un monde ouvert. Les cheminots se retrouveraient gonflés à bloc, parce que pour l'instant, on leur fout la pétoche. On va vous changer votre statut, on va changer votre entreprise, on va peut-être pas prendre la dette, etc. Je trouve qu'il n'y a pas de donnant-donnant dans cette négociation.
Oui, on va écouter Emmanuel Macron, je vous donne la parole juste après. Mathias Vichra, deux questions avec deux réponses courtes, Emmanuel Le Chypre. Cette dette de 50 milliards, si l'État en reprend une grande partie, 35 milliards, on a les reins solides pour le faire. C'est quand même Bruxelles va laisser faire aussi.
On a 2000 milliards de dettes, on n'est pas à 35 milliards près.
Bon, si vous voulez, oui, d'accord.
Voilà, en plus ça rentre pas dans les déficits, ça rentre dans la dette. Donc par rapport aux critères de Maastricht, c'est pas
Bruxelles dira rien. Juste aussi sur les syndicalistes qu'on a entendu, on dit qu'il y a 2200 syndicalistes détachés à temps complet à la SNCF. Les syndicats ont pris le pouvoir à la SNCF. Il y a vraiment une citadelle syndicaliste ou pas?
Ça ressemble de plus en plus à un fort à la mot, pas à une citadelle, si vous voulez. Hein. C'est fort à la mot parce que on voit bien qu'il y en a, il y a un dernier bastion qui tient. Et d'ailleurs, c'est là l'enjeu politique aussi, au-delà du sujet SNCF. C'est que d'un côté, vous avez un président de la République qui veut un trophée, qui est grosso modo le statut pour montrer qu'il a réussi, lui ou les autres ont échoué. Et je pense que c'est un péché d'orgueil et que c'est pas forcément la meilleure façon de débarrer cette négociation. Et que de l'autre côté, on a un enjeu syndical. Je vous rappelle qu'il y a des élections professionnelles en fin d'année et que là aussi, les syndicats ont tout intérêt à montrer les muscles et jouer leur peau.
On les a entendus. Hein. On parle de mépris, de risque de radicalisation, de silence assourdissant d'Emmanuel Macron, dixit la CGT, lequel le président de la République prenait la parole, c'était ce matin, au CHU de Rouen avec des infirmières au moment de visiter donc un centre d'accueil pour autistes.
Il y a aujourd'hui des sujets sur lesquels le gouvernement a fait des annonces qui font l'objet de réactions, de protestations qui sont totalement légitimes, qui ne doivent pas empêcher pour autant le gouvernement de gouverner, de continuer à prendre des décisions et de faire des choses importantes pour des millions de nos concitoyens comme ce que nous sommes en train de faire.
Mathias Vichra, directeur général adjoint de la SNCF, comment vous êtes tenu au courant de ce que veut le gouvernement? Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous ressentez de ce que veut le gouvernement, enfin l'exécutif, jusqu'où il ira? Qu'est-ce qu'il vous dit justement?
Non, la première chose qu'il faut rappeler quand même, c'est que au départ, il faut bien comprendre la question de la méthode. Il y a eu un rapport, le rapport Spinetta, qui est un très bon rapport, qui aborde tous les sujets. Premièrement, on n'y est pas allé sabre au clair, il y avait un rapport complet, exhaustif, qui a fait un diagnostic complet et qui a établi toute une série de propositions.
Qu'est-ce qui vous a vraiment appris le rapport?
Première étape. Il nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris.
On connaissait tout presque.
Véron, c'était le rapport. Non. Le rapport Spinetta nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris notamment à rassembler quand même quelques éléments de fierté. Rappelons-le, la part modale du train est passée de 7 à 10% en 15 ans dans les transports. Donc c'est quand même un élément intéressant. Il a rappelé énormément de choses sur l'état, notamment du réseau et des petites lignes. Et il a abordé aussi les questions de gouvernance. C'est quand même mieux que ce viennent de l'extérieur les questions de gouvernance plutôt que de l'intérieur.
Donc,
ce que je veux dire maintenant, c'est que en réalité, il y a plein de marges de discussion et de concertation dans les années à venir et surtout, j'allais dire, dans les semaines à venir. Voyons ce qui a été fait sur la concurrence. la question des dates et la question de ce qu'on appelle le sac à dos social en cas de transfert. Le sac à dos social en cas de transfert, les syndicats ont été entendus. Ils ont été écoutés par la ministre Elisabeth Borne qui a annoncé ça vendredi dernier. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, un, en cas de transfert, la garantie de l'emploi à vie. Deux, l'affiliation au régime spécial de retraite. Trois, un maintien absolu de rémunération, y compris les primes. Ça veut bien dire que, pour reprendre une expression courante, il y a du grain à moudre. Et que donc, sur d'autres sujets, que ce soit le sujet notamment du statut de l'entreprise, le sujet de la dette, mais aussi les sujets de la polyvalence et de la formation, il y a beaucoup de marge de discussion.
Les Transdev, les Trenitalia, ils ont envie de reprendre du personnel donc ils vont être avec un statut particulier qui risque un petit peu d'handicaper leur compétitivité.
De toute façon, ils vont être tenus au choix législatif qui sera fait. Par ailleurs, nous, pour que la concurrence soit libre et non faussée, on souhaiterait que ce soit dans les mêmes conditions, y compris les conditions d'obligation de service public, c'est-à-dire les tarifs sociaux, c'est-à-dire les tarifs pour les personnes âgées, etc. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait des acteurs dans le cadre de la concurrence qui arrivent et qui fassent sans aucune contrainte sociale.
C'est le rôle de l'État, là.
Exactement.
L'État doit poser des règles.
Exactement, l'État doit poser des règles. De la même manière qu'il ne faudrait pas que la concurrence ne s'exerce que sur les lignes rentables. Parce que dans ce cas-là, l'apport de la concurrence serait limité, et c'est bien la raison pour laquelle la ministre des Transports a annoncé que le niveau des péages sera modulé en fonction de la rentabilité actuelle des lignes. Donc, ça, c'est un point très important. Pour que la concurrence soit libre et non faussée et pour qu'elle ait un effet positif sur l'économie, il faut quand même quelques précautions.
Comment vous la considérez, la méthode du président de la République? C'est une méthode mêlant souplesse, fermeté. Il est quoi? Il est déterminant. Vous l'avez connu à une certaine époque de votre vie, puisque vous avez fait vos études avec lui à l'ENA, la fameuse promotion Léopold Sédar Senghor, justement, avec bien d'autres stars de la politique ou de l'entreprise, justement. Comment vous le sentez, Emmanuel Macron?
Moi, ce que je pense, c'est qu'on est parti d'un constat objectif et documenté qui est le rapport Spinetta. Ensuite, quand même, il faut le dire, c'est pas une réforme, c'est la réforme. Si on y arrive à changer le statut de l'entreprise, à faire en sorte que la concurrence arrive, traiter le sujet de la dette, traiter le sujet de la polyvalence, traiter le sujet de la formation des cheminots pour qu'ils soient au niveau des exigences du digital, de la concurrence, etc. Si on arrive à faire tout ça, un, il y aura plus de trains demain, donc c'est pas une logique d'attrition, c'est une logique de développement, et deux, surtout, la SNCF pourra tirer son épingle du jeu dans le cadre de la concurrence. Donc moi, ce que je pense, c'est que cette réforme doit être abordée de manière globale, et il faudrait qu'il y ait plus de débats comme celui que nous avons aujourd'hui, parce que je dois dire que je regrette un peu que, y compris d'un point de vue médiatique, le sujet ne soit pris que sous l'angle de la fin du statut. C'est une réforme qui est beaucoup plus large que ça.
Les décodeurs de l'écho sont là sur BFM Business tous les soirs. Oui, Pascal Perry, l'avenir de la SNCF, il va passer par quoi, donc, au final? Par une transformation de notre bonne vieille entreprise française. Est-ce qu'il y a un modèle à l'étranger qui a spécialement votre regard?
Ce qui se passe en Suède est intéressant parce qu'il y a une double démarche en Suède. C'est ouvrir à la concurrence les lignes qui sont éligibles à la concurrence en jouant sur l'élasticité de la demande au prix. C'est-à-dire que ça a dilaté le marché, si vous voulez. Le marché s'est dilaté, et donc il y a plus de gens qui prennent le train. Et en même temps, une politique de maintien du service public, non pas avec des petites lignes isolées, mais des groupes de petites lignes dans lesquelles il y en a quelques-unes qui sont rentables, d'autres un peu moins. Au fond, une péréquation par la rentabilité et le service public. Je crois que c'est un bon modèle. Alors, il faut aussi peut-être...
Et vous, Mathias Vichois, c'est quoi le bon modèle à l'étranger duquel il faut s'inspirer?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas plaquer des modèles étrangers. Non. En France, on dit qu'on s'inspire partiellement du modèle allemand et du modèle suédois. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller prendre différentes formes de concurrence. Il y a l'open access, c'est-à-dire vous gardez l'opérateur historique et vous ajoutez des concurrents. Oui. Et il y a, ça c'est pour le TGV, c'est ce qui a été décidé pour le TGV, et vous avez pour le TER la délégation de services publics. Oui.
C'est un groupe de lignes. Exactement. Dans lesquelles il y en a qui sont rentables, d'autres qui ne le sont pas. C'est la péréquation par le prix. Et puis, peut-être qu'il y a un dernier point, il faut peut-être abattre quelques vaches sacrées. Sur certains endroits du territoire, dans certains territoires, l'autobus est un moyen de transport, un outil de mobilité plus efficace sur le plan économique et y compris sur le plan écologique. Une fois encore, pourquoi maintenir 30% du réseau quand 2% des passagers l'utilisent, quitte à augmenter le service, à augmenter la qualité du service, augmenter les fréquences en autobus.
Ce qui est complexe, c'est que quand vous regardez en fait dans le monde tous les cas de libéralisation, d'ouverture à la concurrence sur toutes les industries de réseau, et là je parle de l'électricité, etc. Vous voyez quoi? Vous voyez qu'en fait, on a souvent un débat idéologique, la concurrence est formidable, etc. Et en fait, vous voyez quoi? Vous voyez qu'en fait, la réussite d'une ouverture, d'une libéralisation, ça dépend quasi exclusivement de l'ingénierie et de la façon dont on a architecturé tout ça. Pourquoi l'ouverture du marché électrique à la concurrence en Californie, ça a été un fiasco au début des années 2000? Parce que ça a été fait en dépit du bon sens. Pourquoi les Suédois ont parfaitement réussi l'ouverture de leur marché de l'électricité? Parce qu'ils ont su inventer un modèle qui fonctionnait. Et sachant qu'enfin, je termine très vite, la clé de la réussite de toutes ces industries de réseau, c'est justement d'avoir un réseau performant. Et vous prenez les modèles de train, les deux modèles parfaits qui sont la Suisse et le Japon. L'un est privé, l'autre est public, etc. Mais il y a le même effort, la même vigilance, les mêmes moyens, la même intensité, la même attention qui est portée à la qualité des infrastructures.
Philippe Mangin.
Et c'est ça le secret de l'industrie en réseau.
Moi, je dis, j'attends avec impatience cette concurrence, que concurrence, c'est bonheur pour l'entreprise, et la SNCF est une entreprise. J'attends surtout qu'on utilise le mot règles, changer les règles à l'intérieur de la SNCF. On n'en a pas assez parlé. J'ai parlé des règles de sécurité au début. Des règles qui empêchent les gens de travailler 35 heures. Ils sont obligés de travailler que 25 ou 20. Je dis pas ça de façon hypocrite parce qu'il y a trop de contraintes. Il faut rétablir l'homme aussi. La hiérarchie est trop écrasante. Il faut que
la sécurité, c'est important, attention.
Il faut que la sécurité.
Faut pas que le gars puisse prendre des initiatives.
Mais d'accord, je vois pas très bien pourquoi on dépense des heures et des heures sur des aiguillages manuels.
Attends, un conducteur, s'il a un carré fermé devant lui pendant 7 heures, il va pas se demander s'il est en panne.
Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. On peut pas travailler au 21e siècle avec des règles du 19e.
Allez, la conclusion, Mathias Vichra, donc.
Oui. Posez-moi la question.
La SNCF, elle va bouger. Il y a une chance, il y a une issue.
La conclusion, en deux parties, si vous me le permettez, très rapide.
Cette fois, c'est la bonne.
La première, c'est que la SNCF a déjà bougé. Il faut arrêter les caricatures. La SNCF s'est transformée.
On l'a dit.
L'international, les nouvelles mobilités.
On parle de la suite.
Maintenant.
Qu'est-ce qui va vous rester à l'ouverture de la concurrence?
Le sujet devant nous, c'est une question d'efficacité de la SNCF pour tirer parti de la concurrence. Et le sujet qui
est
devant nous.
Vous serez sur tous les tronçons, une fois que ça sera ouvert? Vous resterez sur tous les tronçons ou pas?
On verra si on gagne les marchés. Ouais. Nous sommes plutôt optimistes sur la réussite du groupe et ça permettra de mobiliser les équipes dans un univers concurrentiel. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une organisation peut-être plus fiable, moins segmentée, et d'une organisation également qui prenne en compte plus de polyvalence entre les agents. La performance demain, c'est la polyvalence, et c'est un sujet fondamental sur lequel nous souhaitons travailler. C'est aussi ça un des volets de la réforme.
Merci Mathias Vichra, directeur général adjoint du groupe SNCF, Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Philippe Mangin, à la tête de son agence de notation spécialisée dans le transport TK Blue, et puis Pascal Perry, SNCF, un scandale français, économiste, directeur de PNC Économique. On se retrouve vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé et à la radio.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.